CO2 mon amour, avec Ocofen, chaudière à granulés de bois, chauffage central écologique et économique. Rendez-vous sur ocofen.fr.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous accueillir dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. C'est au de mon amour avec aujourd'hui Arnaud Caillet et Ludovic Asselot à la technique et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza. C'est Xavier Pessugia qui réalise l'émission et comme c'est le 20 mars, et ben c'est le printemps et on ne va pas s'en priver. Ah, le printemps! Te voilà, enfin, le printemps! Méchant! Pendant ce temps, le pauvre Pompon, il se faisait un sang d'encre. Il se glaçait dans le fournil. Il s'esquimaudait à t'attendre pendant que l'hiver faisait le beau. Qu'il paradait par moins de 12 degrés. Qu'il mettait les centrales nucléaires dans le rouge. Et que les TGV roulaient comme des Michelines. Ah là là, ça gelait à pierre fendre il n'y a pas longtemps. Et moi, je n'avais plus de sel à mettre dans le pain. Je le mettais sur le pas de la porte pour ne pas glisser. Et toi, tu ne donnais pas de nouvelles au pauvre Pompon. Hein, rien, pas une carte postale pour dire « je sais pas quoi ». Cette année, je serai en retard. L'hiver fait son grand chaud et donc vous avez froid. Mais je reviens, hein, le 20 mars, promis, je serai là. Eh ben, tu vois, ça suffisait. Et nous, pour nous réchauffer, qu'est-ce qu'on faisait? On comptait les bulletins de vote. C'est te dire si on a eu froid, tellement il n'y en avait pas cette année de bulletins de vote. C'est une année comme ça. Il y a eu des mirabelles, des noix, mais peu de bulletins. Il y en aura peut-être plus demain, maintenant que tu es là. Et oui, le premier tour, c'était en hiver. Le second, c'est au printemps. Tu vas peut-être les inspirer. Bon, allez, on oublie. On va pas te bouter, hein, maintenant que tu es là. Jeune printemps plein d'entrain avec tes grands yeux de soleil, tes épaules larges de branches avec du doux dans la paume de tes mains. Allez, tire la chaise, fais claquer les bourgeons, mets des feuilles aux arbres. La seule neige qu'on t'autorise, c'est celle des pétales de cerisier. Oui, mets le feu à la vie, petit, y'a que toi le printemps qui sait faire ça. Eh, faut que tu nous aides, nous les hommes, à nous extraire de nos torpeurs, de nos égoïsmes, de nos peurs de l'autre, de nos soifs de toujours plus, de tons, d'écrans plats comme nos cerveaux, de pavillons aux zones inondables, de nos vies sans humus. Allez, top départ, 20 mars, embourgeonne les cœurs, dessine-nous de l'avenir, des souris et des pommes, des amours courants d'air, du vivre ensemble, fais-nous croire en la terre, mais surtout en nous-mêmes. Et là, faut peut-être pas grand-chose, hein. Faut un peu éteindre la télé, un peu résister, oui, je sais, c'est pas à la mode, un peu parler à son voisin, faut l'envie d'être relié aussi à une terre bleue comme une orange, et non à une terre orange qui aurait pris des bleus. Allez, vas-y, fais chauffer ta partition d'oiseaux, fais sécher tes nappes de ciel bleu, remets-nous le chant des ruisseaux et le chant du monde en apéro. Et dans cette émission, qui elle aussi fait ce qu'elle peut, eh bien, nous allons vous dessiner des aigles. On ira dans le ciel des Alpes du Sud pour les compter, ces aigles. On découvrira des frênes têtards, des grenouilles, et puis ce sera donc cette actualité de biodiversité. Il y aura aussi dans quelques instants des loutres et des morues, et une clé de sol à moustache.
Il existe toujours une conversation entre l'homme et la nature. Je crois que le vrai dialogue entre la terre et les hommes se trouve vraiment chez les paysans. Plus ça va et plus je suis convaincu de cette chose. Sans présence paysanne effective, sans travail effectif, les pays deviennent des déserts.
C'était au printemps 1996, donc chez lui à Entraigues-sur-Volane et auparavant à Biodiversité avec un homme que vous connaissez. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
On va retourner dans la mer avec les dons précieux de la nature et on va se rendre compte que les lois de l'écologie sont bien sûr universelles et qu'elles s'appliquent au milieu marin. Et là on va parler d'histoire de déséquilibre.
Oui, c'est une très belle histoire qu'on pourrait enseigner aux enfants pour leur faire comprendre ce qu'est l'écologie. Ouais. Sur les côtes de l'Alaska vivaient des loutres de mer. Et ces loutres de mer étaient des animaux relativement rares et protégés. Mmh. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait de moins en moins de loutres de mer et qu'en réalité, il n'y en avait presque plus. Alors on s'est dit, les loutres doivent être victimes de quelque chose. Oui. Eh bien, le quelque chose, c'était un redoutable prédateur qui est un des animaux les plus effrayants que je connaisse, qui sont les orques.
Ah oui.
Et qui sont très féroces quand ils s'abattent sur des otaries, par exemple. Ce sont de dangereux carnassiers, de dangereux prédateurs, et ils mangent les loutres. Alors on s'est posé la question, comment se fait-il que ces orques se sont ainsi rabattus sur les loutres ?
C'est-à-dire qu'ils ont changé de régime alimentaire.
Oui, parce qu'avant ils mangeaient des poissons. Oui. Mais comme il y a eu de la surpêche, il n'y avait plus beaucoup de poissons, donc ils ont changé de nourriture, et le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de poissons a été fatal aux loutres.
Oui.
Donc, d'une manière différée. Mais alors les loutres, elles mangeaient des oursins. Et on s'est aperçu que comme il n'y avait plus beaucoup de loutres, les populations d'oursins se sont mis à proliférer, et comme ils ont beaucoup proliféré, ben les victimes des oursins, c'est-à-dire les algues, ont au contraire décru. Et on s'est aperçu que sur les côtes, il y avait de moins en moins d'algues. Or, il se trouve que les algues, qui sont souvent des algues géantes dans ces régions, sont la nourriture des petits alevins de poissons.
Oui, sont des pouponnières.
Donc,
ça.
Absolument. Donc, il n'y a plus beaucoup d'alevins de poissons. Donc, il n'y a plus beaucoup de poissons. Donc, il y a de la surpêche. Donc, comme il y a de la surpêche, eh bien, il n'y a plus beaucoup de loutres. Et voilà, on peut enchaîner. Et on a l'exemple type de ce qu'on appelle une chaîne alimentaire.
Oui.
Mais c'est une chaîne alimentaire, ici, qui est marine. Ça montre bien que les lois de l'écologie sont les mêmes. Alors, on pourrait aussi prendre l'exemple des morues. Parce que ça, c'est un cas tout à fait étonnant. Non. La morue a été surpêchée. On connaît très bien l'image de Terre-Neuve.
Oui.
La pêche à la morue, oui. Ça a été...
Et Terre-Neuve.
Oui, c'était ce qu'on nous racontait quand on était petit. Ça faisait partie des récits lointains. Les morues, elles ont subi le sort de beaucoup de poissons. C'est qu'elles sont devenues rares parce que surpêchées. Mais elles sont devenues tellement rares qu'en 92, le Canada a interdit la pêche à la morue. Et puis on s'est dit, du coup, ça va se reposer, et puis les morues, bien entendu, vont revenir, puisqu'on ne les pêche plus. Voilà, dis pas qu'elles ne sont pas revenues, et que nous sommes 18 ans plus tard, et que les morues ne sont toujours pas là. Alors là, il y a eu des débats à n'en plus finir, pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe pour que les morues ne reviennent pas? Alors on a évoqué toutes sortes de causes, on a dit, ah oui, mais le plancton a changé, parce que le réchauffement climatique a fait disparaître des petits animaux que les morues aimaient manger. Et puis après, on a dit, mais non, c'est parce que quand on pêche l'éperlan, par exemple, eh bien, on pêche en même temps sans le vouloir des morues. Et alors, on les baptise, dans le monde de la pêche, ça, je trouve ça très drôle, on les baptise des faux poissons. Parce que quand on pêche un poisson qui est interdit de pêche...
Il n'est pas utile.
Oui, alors, on n'a pas le droit de le commercialiser, et on l'appelle un faux poisson.
D'accord.
Et puis, on a fait encore beaucoup d'autres études, et il y a une étude qui, semble-t-il, apporte un argument tout à fait intéressant, c'est que les morues mangeaient des petits caplans et des petits harengs. Mais voilà, les petits harengs et les petits caplans sont devenus rares aussi, donc les morues, du coup, sont rares aussi. Puis on s'est aperçu que les morues, quand elles étaient adultes et qu'elles n'avaient plus beaucoup d'animaux à manger, se mangeaient entre elles.
Mmh.
Elles mangeaient les petites morues. Et il y a du cannibalisme chez les morues. Alors tous ces facteurs jouent en même temps. Eh bien, résultat, il n'y a plus de morue.
Oui.
Eh bien, si on mange les petits, il n'y a plus de petits qui deviennent grands. C'est
oui,
aussi
c'est un
saisissant exemple de ce qu'on appelle les chaînes alimentaires. Alors, il n'y a pas que la morue qui est dans ce cas-là. Il y a beaucoup de poissons. On estime, en gros, que 28% des espèces de poissons sont surexploitées.
Oui.
Et parmi ces 28%, il y en a 7 qui sont très surexploités et qui correspondent aux 10 espèces de poissons les plus pêchées au monde.
Oui, donc 7 sur 10.
Qui sont 7 sur 10, qui sont des poissons très consommés et qui sont en état de perte de population rapide. Il y a d'ailleurs une étude qui est parue dans Science il y a 2-3 ans. Elle était assez amusante parce que c'était typiquement le fruit de ce que font les ordinateurs. L'auteur a déclaré qu'en 2048, il n'y aurait plus un poisson dans l'océan. C'était pas 49,
non.
C'était pas 47. L'ordinateur a décidé que c'était 48. Alors il s'est fait taquiner un petit peu sur la précision extrême de ces chiffres pour dans 50 ans. Et puis il a dit non, ben ça sera peut-être moins moche que nous pensons parce qu'on va prendre des mesures. C'est comme le réchauffement climatique. Nous sommes les maîtres du jeu, nous gérons la Terre. Très mal,
oui.
Mais nous allons prendre des mesures.
Oui. Alors qu'on n'en prend pas.
On n'en prend pas. On prend la mesure des problèmes, mais on ne prend pas de mesures pour les régler.
Oui.
Non, mais on a près de la moitié de l'humanité aujourd'hui qui vit, qui se nourrit donc grâce aux poissons. Petite précision, Jean-Marie, parce que sinon on va avoir plein de courriels aussi. La morue, c'est le cabillaud au départ.
Oui, hein, c'est
le
cabillaud, c'est ça, oui, absolument. Oui.
Après, une fois transformé, on l'appelle la morue.
Voilà. Oui. Mais alors, on voit apparaître sur les marchés maintenant des poissons des grandes profondeurs. Le fait qu'on chalute au fond, on enlève la vie biologique du fond des mers.
On ratisse tout.
Et maintenant, on descend jusqu'à 2000 mètres couramment pour pêcher toute une collection de poissons.
Alors, il y a des capitaines, il y a des grenadiers aussi.
Il y a le grenadier, il y a le capitaine.
Alors, on présente d'ailleurs aussi sur les étals uniquement les filets parce qu'ils ont des gueules absolument bizarres.
Voilà.
Avec la pression.
Ah, et tu avais compris. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, il y en a toute une collection. Il y a le flétan du Groenland. Oui. Le grenadier, il s'appelle le grenadier de roche. Il y a le hoki, la lingue bleue, le sabre noir, le sébaste, le requinski. Aucun de ceux-là, on peut les montrer, ils sont très moches.
Oui, bien sûr, oui. Ça ferait fuir la clientèle.
Oui, c'est à Bordeaux qu'on mange de la lamproie aussi.
Ah oui, absolument, oui. C'est plein d'arêtes.
On m'avait proposé d'en manger il n'y a pas longtemps à Bordeaux, et j'ai dit, comment c'est la lamproie? Ils m'ont dit, bah, regardez, c'est le plat d'à côté. Oh, j'ai dit, bon, alors je prendrai un steak tartare. J'ai été effrayé par la bête.
Et c'est comme ça que vous avez fait monter votre empreinte écologique.
C'est ça.
Et le CO2 de la planète.
Largement.
En bouffant votre steak tartare. Bon, bah écoutez, un grand merci Jean-Marie Pelt. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme au passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi, que ce balbutiement? Parle de bonheur, a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rades inconnues. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi, que ce balbutiement?
C'était au printemps 1996. Je l'avais au téléphone. Je lui ai dit, écoutez, j'aime votre coin, sa nature. J'ai envie de parler avec vous parce que vous savez écouter le monde. Alors, il était là, au rendez-vous, comme convenu. Il a vu débouler un cycliste avec sa tenue ridicule, ce qui est d'ailleurs un pléonasme, mais sans publicité si exotique dessus. Et ça, il a apprécié, hein. Bah oui, quand même. Le mauvais goût, ça a parfois quand même des limites. Alors, direction l'Ardèche. Je devrais dire, en fait, les Ardèches, parce que vous n'en avez pas qu'une, hein. Vous avez avez véritablement des territoires qui sont très différents. Vous avez l'Ardèche de la vallée du Rhône, pays donc riche de fruits, de vignes, de grands crus. Vous avez celle des Boutières, vous en avez d'autres. Et puis vous avez la sienne, celle de Ferrat, donc la Cévenne ardéchoise, avec des pentes qui descendent des hauts plateaux. Et tout est en fait très délimité par la géologie. Donc on a des productions différentes, des cultures différentes. Et là, on est quand même dans un pays rude. C'est aussi un pays de volcans. Bon, pas très nerveux, les volcans, heureusement. Et avec des coulées de basalte qui ont façonné le paysage, les eaux minérales et les hommes. Voilà pour le décor. La suite, c'était donc non loin de sa rivière, la Volane, aujourd'hui avec Jean Ferrat. Ah, alors là, Jean Ferrat, nous sommes ce matin avec du soleil. C'est vrai qu'il y a un bon froid de printemps quand même, hein, faut pas se tromper. Il fait pas encore très très chaud chez vous ici en Ardèche. Mais le temps est quand même un petit peu assez clément sur la place d'Entraigues.
Ah ben, il était plus clément hier, parce que hier on était en chemise pratiquement. Aujourd'hui, j'ai un pull et une veste et j'ai pas trop chaud là. Mais alors, la place est à nous.
Personne.
La place d'Entraigues est à nous.
Personne.
L'agora nous appartient.
Ah, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'agora. C'est-à-dire qu'il y a la palabre, les gens discutent, c'est là qu'ils se réunissent, c'est qu'ils échangent.
Ah ouais, bah bien sûr. Et puis c'est là où ont lieu les dernières tragédies ardéchoises modernes. Je veux parler des parties de pétanque.
Ça, c'est grave, ça.
Ah,
ça, c'est grave.
Là, quand les enjeux sont lancés, quand les défis sont lancés des jours, des semaines, voire quelques mois avant, et que quand le moment arrive, et ben, il règne une tension.
Bonjour madame.
Bonjour madame. Il règne une tension extrême dans les camps.
Oui.
Ouais. Et c'est là où la moindre chose, ce qu'on appelle la musique même de la pétanque, s'élève vers le ciel.
Oui. Ouais. Ça c'est beau ça. Moi, je ne sais pas quoi rajouter derrière. D'ailleurs, on va rien rajouter derrière ça. Vous n'avez jamais été humilié à la pétanque, non?
Ah si, si.
Si, ah,
si.
Oui.
Vous savez, ici, comme dans tout le Midi, on baisse Fanny.
Oui.
Mais ce n'est pas théorique seulement. D'ailleurs, on vous amène une effigie d'une personne dévêtue dont
bien sûr.
Il faut...
baiser l'arrière-train.
Voilà, baiser l'arrière-train, à genoux, sur la place. Alors, évidemment, on essaie de
c'est un pays de rituels et traditions,
on essaie de le faire quand il n'y a pas trop de monde, mais quand ça arrive un jour de 15 août, ça, c'est... Là, on est la risée.
Là... On peut avoir écrit les plus belles chansons du monde, peu importe. Hein,
on est la risée générale. Oui.
Sans que je puisse m'en défaire, le temps met ses jambes à mon cou. Le temps qui part en marche arrière me fait sauter sur ses genoux. Mes parents, l'été et les vacances, mes frères et sœurs faisant les fous, j'ai dans la bouche l'innocence des confitures du mois d'août. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance. Nul ne guérit de son enfance, de son enfance.
Jean Ferrat, vous avez écrit une chanson qui s'appelle « Nul ne guérit de son enfance ». Qu'est-ce que vous emportez avec vous, toujours, depuis votre enfance ?
Moi, je crois que j'emporte le souvenir de l'amour, en fait. De l'amour maternel, paternel, l'amour qui régnait dans ma famille et qui a été une chose très précieuse pour moi.
Alors malheureusement, votre père a disparu, donc on le sait, pendant la guerre, a été déporté. Vous étiez jeune, vous aviez 10-11 ans. Qu'est-ce qui reste de votre père encore aujourd'hui ? Je sais que vous étiez petit, mais vous avez encore le souvenir de votre père ?
Oui, je crois que c'était un homme bon. Ça paraît tellement bizarre à notre époque de faire appel à la bonté ou de... que j'ai l'impression que les gens, ils ont presque honte maintenant de faire appel à cette notion. Hein. Mais moi, je pense que c'était un homme profondément bon et qui, autour de lui, répandait cette bonté et cette générosité. Et je crois que, sans doute inconsciemment, ça a été pour moi quelque chose qui est toujours présent.
Vous avez toujours aimé et chanté les femmes. On pense évidemment entre autres à La femme et l'avenir de l'homme, mais il n'y a pas que cette chanson-là. Est-ce parce que vous avez été élevé beaucoup par elle ?
Ah oui, ça certainement. J'ai été élevé, c'est vrai, par plusieurs femmes, ma mère, ma tante, ma sœur, en même temps, puisque j'étais le plus jeune de la famille. Alors j'ai bénéficié de cet environnement privilégié et qui m'a appris beaucoup de choses.
Qu'est-ce qu'elles vous ont appris, par exemple ?
D'abord, l'amour. C'est, j'y reviens hein, toujours, mais...
Mais tant mieux.
Je crois que c'est une chose primordiale, c'est une bonne chose, et qui m'a été dispensée généreusement, et je crois que je dis toujours que l'équilibre, si je peux dire que j'ai un certain équilibre, c'est vrai, vient de cela, dans mon enfance, dans ma jeunesse, malgré les choses dures et très pénibles qui se sont passées. Voilà, je garde ça comme un acquis, très exceptionnel aussi, parce que malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas dire la même chose.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie.
Jean, vous avez plutôt le goût de la campagne, mais le goût du lieu.
Je crois que j'ai les deux, certainement. J'ai le goût de la campagne. Tout le monde sait que quand on est citadin, on aime partir... enfin, la plupart, hein, bien sûr, il y a des gens qui ne respirent que sur le bitume. Mais quand même, je crois que c'est l'exception. Alors, j'aime bien, j'ai toujours aimé partir dans des lieux campagnards, dans le sud, à la mer, etc., à la montagne aussi. Mais je suis aussi, et peut-être surtout, frappé par certains lieux, comme je l'ai été, si vous voulez, en France, et puis aussi à l'étranger, quand je vous dirais Sienne, oui. La ville de Sienne, en Italie, et sa place qui a un côté magique. Vous savez, j'ai rencontré, quelquefois rarement, ces lieux, comme l'Alhambra de Grenade, ou le quartier de l'Albaïcine, qui est en face, où on a l'impression que on ne peut rien dire, on arrive là, on s'assied, et il y a quelque chose de magique qui se dégage, et j'avoue que c'est une chose extraordinaire qui peut vous arriver. Oui. Ça m'est arrivé 2-3 fois.
Et c'est arrivé aussi en Ardèche en 64 ?
J'ai pas eu le souffle coupé comme dans les lieux dont je viens de vous parler, mais j'ai pas hésité une seconde. J'ai visité ma maison à 10h du matin, à 10h10, j'avais dit, je vais vivre là.
J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque, j'entends dans le grenier, chanter mon châtaignier.
L'Ardèche est un pays pauvre, avec ce que ça comporte de chaleur, la chaleur humaine.
Bien à l'abri dans ma soupente, moi j'entends chanter la charpente, ce n'est pas du bois vermoulu.
J'ai senti ça quand je me suis installé dans l'Ardèche, particulièrement en Trègues, où là il y a une tradition très ancienne, l'insoumission à l'ordre établi, et c'est un peu un mystère, parce que à Trègues, si vous voulez, il y a eu deux conventionnels qui ont été élus pendant la Révolution française, ce qui est assez extraordinaire. Après, il y a toujours eu un état de résistance de la part de la population locale là, à l'oppression. Donc vous voyez, il y a un esprit là qui me plaît et qui fait qu'on on s'est trouvé naturellement aussi. C'est arrivé comme ça. Je suis arrivé dans ce pays et j'ai trouvé cet esprit-là, ce qui est miraculeux. Pour un peu, on croirait au ciel.
Entraigues, il faut quand même le rappeler, ça veut dire entre les eaux.
Oui, parce qu'on est dans une région qui s'appelle la Cévenne ardéchoise et qui possède par là même les caractéristiques des Cévennes, c'est-à-dire un terrain granitique, des pentes abruptes, Et au creux de ces pentes, de l'eau, des torrents qui courent et qui vont vers l'Ardèche. Et c'est un pays très, très, très vivant de ce côté-là, parce que en même temps, les reliefs sont à la taille de l'homme, à la mesure de l'homme. C'est-à-dire qu'ils ont été travaillés d'ailleurs. Et ça rend le paysage vivant, parce qu'on sent que les hommes ont vécu là depuis des millénaires.
Que restera-t-il sur la terre dans 50 ans? On empoisonne les rivières, les océans, on mange des hydrocarbures, que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole, qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes des nouveaux temps? Enfants, enfants, la terre est ronde, criez plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux?
Jean, on a parlé de l'eau, il y a presque un personnage, je parle bien de personnage, qui est important ici, c'est le vent. Et ce vent, comment on vit avec lui, avec entre autres cette burle, qui est ce vent du nord, qui vient s'enrouler, qui vient parfois se fracasser sur les montagnes. Parfois on a peur du vent ici.
Oui, ça c'est une chose qui ne me plaît pas beaucoup, le vent. C'est personnel bien sûr, mais c'est un phénomène qui m'énerve, parce que ça déstabilise le vent. Ça secoue les portes, les fenêtres, ça fait bouger les tuiles. On se dit, oh, attention, il y a une pierre qui va tomber, il y a les portes qui vont claquer, les volets, etc. Et quand on est dans son lit et qu'on entend la burle souffler d'une manière terrible, on est comme dans un bateau dans la tempête. Je dois dire, ça m'est pénible. Et souvent, ici... On est la proie des vents. Le plus violent, c'est l'équivalent du mistral, qu'on appelle la bise ou la burle. Et puis, il y a aussi alors le vent différent qui vient du sud, le vent mauvais, qui apporte la pluie et les grosses précipitations. Quand il y a des grandes inondations au printemps ou à l'automne, vient de ce vent qui amène aussi la neige l'hiver. C'est un pays âpre, dur. Alors, en même temps, il y a une sorte de générosité qui se dégage de beaucoup de paysans de l'Ardèche. En même temps, ils ne sont pas faciles à gagner, si j'ose dire. Il y a toujours une sorte de réserve au deuxième, troisième degré qui se produit. Enfin, je sais, par exemple, moi, ça fait 30 ans que j'habite ce pays, mais je ne serai jamais du pays.
C'est ça.
Ouais. Mais je trouve ça normal, en plus. Je suis le chanteur, certainement.
Oui.
Bien qu'il m'aime bien, mais bon. Et puis c'est vrai. J'ai adopté ce pays si ce pays ne m'a pas adopté.
Aujourd'hui, quel avenir pour ce coin d'Ardèche ?
C'est très difficile, comme tous les pays de moyenne montagne et des pays où la grosse production n'est pas envisageable.
Rebelle et soumise, paupières baissées, quitte ta chemise, belle fiancée, l'amour est cerise, et le temps pressé, c'est partie remise pour aller danser.
Il faut maintenir absolument une vie paysanne dans ces régions. Évidemment, il faut maintenir à tout prix les caractères qui font la beauté et la rareté de ces lieux, parce que de plus en plus, les gens qui sont concentrés dans les cités auront besoin de se retrouver dans ce climat, parce que les gens ont besoin de racines, ils peuvent pas vivre dans des lieux qui sont pas faits pour l'homme. Quand on voit maintenant à un autre niveau les problèmes, on parle d'écologie, mais le problème se pose en Ardèche depuis longtemps et il va se poser de plus en plus. Je veux dire, il faut maintenir à tout prix, dans ces pays a priori qui ne sont pas rentables pour la grosse production, une présence paysanne effective et qui garantisse, si vous voulez, l'écologie d'un pays. Je veux dire, sans ça, le centre de la France va devenir un désert.
C'est une petite faveur. Est-ce que vous pouvez juste nous fredonner le refrain de la montagne ici, sur la place d'Entraigues ?
Alors, pas toi ?
Ah, si vous voulez.
Pas même que la montagne est gentil, comme un pudent s'immagina, un vegan vol di rondello, que l'automne vient d'arriver.
À bientôt, Jean Ferrat.
Au revoir.
Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol à l'hirondelle que l'automne vient d'arriver?
Et oui, celle-là, c'était la première véritable chanson écologique et sociale qui a existé bien, bien avant donc l'écologie. Alors, cet homme-là aimait le soleil. Hein. C'était un buveur de soleil. Alors, quand il faisait beau, il était dehors, il écrivait pas, ce qui fait que c'était une sorte de lézard de la rime. Et puis, il disait vivement le froid et la pluie, comme ça, je vais pouvoir écrire. Bon, j'ai tourné à peu près une heure ou un peu plus. Donc, un jour ou l'autre, je vous repasserai d'autres éléments hein, de faire. Alors là, nous fêtons, vous le savez, la francophonie sur France Inter. Ben, on est en plein dedans avec Ferrat. Mais on va poursuivre, donc avant notre actualité de la biodiversité, avec Olivia Ruiz. Voici les crêpes aux champignons. Ah, on change de registre.
Hein. Gîte rural, tiens. Voilà un métier d'avenir pour les agriculteurs.
Maman, viens.
La PAC, ça fait 40 ans que ça dure. Et ça fait 40 ans que les petits se font bouffer.
C'est très bien, chérie.
Bientôt, pour élever des vaches, il faudra faire l'école hôtelière.
Allez. CO2, mon amour, Denis Chessy.
Et depuis 606 matins, 606 jours que les voisins hurlent de leur fenêtre que je dois la boucler. Ils disent que je suis folle, que c'est moi qui l'ai tué, que mes idées s'envolent, que j'ai tout oublié. Moi je sais que c'est faux, pour qu'ils reviennent, je chante haut.
Ah bah oui, mais tout de suite, ça excite, hein, les crêpes aux champignons pour rentrer à la maison. C'est toujours mieux que des crêpes au thon. C'était vendredi et jeudi sur France Inter. Voici donc notre actualité de la biodiversité. Un petit coup de thon.
C'est un dîner de thon pour les écologistes. Les pays membres de la CITES ont rejeté massivement l'interdiction du commerce international. Ce n'est pas vraiment une surprise. Ce qui l'est plus, c'est qu'ils ont expédié l'affaire en 3 heures seulement alors que les débats devaient durer plusieurs jours. Le commerce va donc continuer. 80% des prises méditerranéennes partent vers le Japon, accusé d'avoir acheté des voix pour obtenir une majorité. Espèce surexploitée, le thon n'est donc pas classé espèce menacée et son sort sera réétudié en novembre prochain. La convention qui gère les stocks et fixe les quotas de pêche se réunira à Paris. Cette convention a pour mission de préserver la ressource, mission loin d'être accomplie. En 20 ans, la capacité de reproduction du thon rouge est passée de 200 000 tonnes à 60 000.
Décevant, irresponsable, le WWF n'a pas de mots assez durs pour accuser le Japon notamment. Charles Brenne, en charge de la campagne Océan et Pêche de l'organisation écologiste, au micro de Nathalie Fontrelle.
On est abasourdi. Abasourdi face à une telle décision. On sait que le Japon a annoncé qu'il allait tout faire pour empêcher ce vote. On sait qu'il a rencontré énormément de délégations pendant, mais surtout avant, cette conférence. On suppose qu'il a effrayé énormément d'États, comme les États de l'Afrique de l'Ouest, pour qui la pêche est une ressource de devise importante, en leur disant que si la CITES s'occupait du thon rouge, elle allait ensuite s'occuper d'autres espèces, notamment les leurres. Après ce qu'ils arrivent à faire sur les baleines, aujourd'hui le thon rouge, je pense que le Japon, en tout cas, ne gagne pas une image vertueuse en termes d'environnement.
Alors ça a duré 3 heures, hein, cette affaire-là, c'était vite plié, en moins de temps qu'il en faut pour pêcher en fait une vingtaine de thons et puis les réduire en purée de sushi. Qu'est-ce qu'il reste? Ben, il reste le choix des consommateurs que nous sommes. Hein. Donc si la demande baisse, on s'en doute, l'offre pourra se réduire, même si on n'est pas des Japonais. Et comme je vous le disais subtilement l'autre jour, donc à nous de jouer le ou la passante du sans-sushi. Mais à Doha aussi, dans le cadre de cette même conférence, il s'agissait aussi d'interdire le commerce de l'ours blanc. Bon, et là, pour des questions de réelle politique, ben, la France n'a pas condamné cette chasse. Bref, amateurs de sushi, rassurez-vous, si jamais le thon rouge venait à disparaître, nos cuistots japonais nous préparons des tartares d'ours blanc. Ah, alors là, j'ai sous les yeux le numéro de Terre Sauvage du mois de mars avec un excellent carnet de saison de Guillaume Le Saffre, un reportage en Mauritanie, un autre au Cap Horn et 16 pages bondissantes sur les grenouilles. Alors grâce à Nicolas Pion, vous saurez tout du pélodite ponctué, de la rainette verte en passant par le crapaud accoucheur et le triton alpestre, mais surtout sur leur milieu, parce que c'est vrai que si on ne protège pas les milieux, on ne protège pas les bestioles qui sont dedans. Et surtout les zones humides, parce que c'est la 16e édition de Fréquence Grenouille qui est menée par les conservatoires d'espaces naturels et les réserves naturelles de France, hein, c'est jusqu'au mois de mai. Et donc, ça met en avant le rôle fondamental de ces zones humides dans l'équilibre de notre planète. Et ce sont, vous savez, bon, ces zones humides sont des machins qu'on draine, qu'on assèche pour y délivrer des permis de construire, etc. Donc, initiative de plus en plus importante, donc au succès croissant, bien sûr. C'est dans le numéro de Terre Sauvage de ce mois de mars, spécial grenouille, et suivez Fréquence Grenouille. Alors, vous avez tout ça hein, sur les sites de CO2 Mon Amour, tous les sujets dont on a parlé, vous les retrouvez sur le site de CO2 Mon Amour. Nous allons faire un petit tour après présent dans la maison botanique de Bourcey. Nous sommes dans le département du Loir-et-Cher. On va rencontrer Dominique Mention, qui est naturaliste, alors qui est un formidable dessinateur. C'est un homme qui attire notre regard et notre attention sur des arbres. Ces arbres qu'on appelle des trognes. Et il se passe quand même des choses pas très très joyeuses. Qu'est-ce que c'est les trognes, Dominique Mention?
Alors les trognes, ce sont ce qu'on appelle les arbres têtards ou les arbres des mondes qu'on taille à hauteur pour du bois de chauffage, du fourrage et de multiples autres utilisations. Et on fait ça depuis des années et des siècles dans le monde rural.
Et dans cette merveilleuse année de la biodiversité, que se passe-t-il? Quelle est l'actualité qui n'est pas très marrante?
Alors j'intervenais là cette semaine pour des conseils de réhabilitation de trognes, de frênes et de peupliers justement. Et quelle n'a pas été la surprise de découvrir d'énormes trognes de peupliers noirs qui étaient coupés sur le terrain et là laissés à l'abandon. Et un peu plus loin, il y avait quatre billes qui étaient là. Renseignement pris, apparemment, c'est des entreprises qui viennent piller ces arbres et si l'arbre ne convient pas, on le laisse sur place tel quel.
C'est-à-dire que d'un côté, on a des vendeurs et des acheteurs. Donc, qui sont-ils?
Alors, les acheteurs, visiblement, c'est des entreprises européennes hein, qui viennent prospecter. C'est pas nouveau, hein, ça se passe en France depuis des années. C'est du pillage. Moi, je compare ça comme le pillage des arbres tropicaux, où on vient piller sur place les arbres sans compensation de renouvellement, ni sans se soucier de la biodiversité que ça représente. Et puis, on paye ces arbres une bouchée de pain aux agriculteurs, aux paysans, qui se rendent pas compte que là, ils sont en train de perdre un patrimoine extraordinaire.
Donc là, ça se passe à Rigny-Ussé, donc on est dans le département de l'Indre-et-Loire, et nous sommes dans une zone Natura 2000.
Alors, en plus, on est dans une zone Natura 2000, on est sur le territoire du PNR Loire-Anjou-Touraine, on est dans des opérations avec des documents d'objectifs pour justement préserver le bocage, la biodiversité, et on se trouve dans une zone classée par l'UNESCO, c'est la vallée de la Loire.
Alors, c'est pas de la sensiblerie hein, par rapport aux arbres, c'est que ça correspond à quelque chose, vous l'avez très bien dit, à la fois un patrimoine, mais ça va plus loin que ça, hein. C'est une véritable réserve de biodiversité, ces arbres-là, ces trognes.
Ah, complètement, parce que très vite, ces arbres forment des cavités par les tailles régulières, qui étaient répétées autrefois souvent tous les 9 ans, et ces cavités abritent des oiseaux comme la chouette chevêche, des insectes, des chauves-souris, des batraciens, enfin, c'est un monde extraordinaire, en plus qui évolue avec le temps, et on va bousiller des arbres sans se soucier si ils sont vraiment en plus un intérêt économique, quoi. C'est-à-dire qu'on les coupe et on regarde après si vraiment on peut en faire quelque chose et les acheter une bouchée de pain.
Merci à vous Dominique Mention, à très bientôt, au revoir.
Merci bien Denis, au revoir.
Et puis qu'est-ce qu'on en fait? On en fait des... c'est un peu comme de la loupe hein, de ce bois, on en fait des tableaux de bord, on a fait du plaquage de bateaux de luxe, bref, la vie du commun des mortels. Bon, alors maintenant dans l'actualité aussi, petite question, à votre avis, où incinère-t-on les incinérateurs? Eh bien, réponse sur place, si l'on en croit les habitants d'ici les Moulineaux qui ont vu mercredi leur ancien incinérateur partir en fumée. Donc il y a eu un magnifique panache noir dans le soleil couchant. Notez que dorénavant, on camoufle très bien les cheminées et les fumées des incinérateurs au cas où les riverains nourriraient encore quelques doutes quant à l'innocuité des dites fumées. On poursuit notre actualité dans quelques instants et on ira voir voler les aigles.
Je chante un baiser, je chante un baiser osé. Sur mes lèvres déposées par une inconnue que j'ai croisée, je chante un baiser. Marchant dans la brume, le cœur démoli par une, sur le chemin des dunes, la plage de Malaubray d'une, la mer du Nord en hiver sortait ses éléphants gris verts, des adamos passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fancifères à la fraise. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés. J'ai ma fortune sous l'écharpe, les boucles brunes. C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes, en blonde j'ai des lacunes. Oh, le grand air, tourner le vent, la dune à l'envers. Tourner tourner le ciel et tourner la terre, tourner, tourner le grand air. La Belgique locale envoyait son ambiance musicale, de flonflon à la française, de fancifère à la fraise. Dun, 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 dun. Ta langue amie et dans mon cœur un décalcomanie marqué liberté, liberté chérie. Je donne au départ pour ce moment délicieux hasard Adam O.M. Sissola. Oh, tous les milliards de dollars. Le vent de Belgique envoyait mélancolique ses flonflons à la française, de fancifère à la fraise. Si tout est moyen, si la vie est un film de rien, ce passage-là était vraiment bien, ce passage-là était bien. Elle est repartie, un air lassé de reine à l'anguille, sur la digue un petit point parti, dans l'audit de son mari. Chante un baiser, chante un baiser osé sur mes lèvres déposées.
C'est une merveille, la mer du Nord, et puis Souchon avec son baiser dessus aussi. Allez, suite de notre actualité, biodiversité.
Le tout chimique, c'est fantastique, mais c'est toxique. Le transgénique, c'est fantastique.
Voilà, voilà, voilà. Et donc, c'est donc la semaine sans pesticides. Réduire de moitié, si possible, d'ici 2018, les pesticides. Et tout est dans le « si possible hein ». Donc, affichage purement politique avec aucun caractère contraignant pour cet objectif, d'ailleurs, qui est louable, issu du Grenelle. Alors, à l'INRA, donc on pense après expérimentation, là, que l'on va mettre au point avec 3000 fermes tests, qu'une réduction moyenne de 30% est possible, ce qui est déjà pas mal du tout, mais pas dans toutes les filières. Notre président au Salon de l'Agriculture pense que ces questions d'environnement, ça commence à bien faire, peut-être aussi en période électorale. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que dans la semaine sans pesticides, il y a des alternatives qui existent. C'est pas simple, mais vraiment ça existe. Donc des initiatives aussi bien au niveau agricole, au niveau des communes, des collectivités, puis nous-mêmes lorsque nous sommes dans nos jardins. Donc semaine-sans-pesticides.fr organisé par le mouvement de défense des générations futures. En tout cas, ils en gèrent l'affaire. Et puis je vous signale que le 3 avril prochain, Colin Serrault sera mon invité en direct dans CO2 Mon Amour pour son film Solution locale pour un désordre global. Et là, ça donnera la pêche parce qu'elle a suivi beaucoup d'initiatives donc qui fonctionnent, des gens qui pensent aujourd'hui différemment. Je vous avais dit que nous allions lever les yeux au ciel, et bien c'est ce que nous faisons. On va rejoindre sur le terrain un homme que vous connaissez, qui intervient régulièrement dans cette émission, c'est Christian Couloumi. Christian Couloumi, bonjour.
Bonjour Denis.
Alors vous êtes, je le rappelle, un garde-moniteur et puis responsable aussi au parc des écrins du secteur d'Embrun. Tenez, je vous fais une petite parenthèse tout de suite, mais si on veut mieux vous découvrir, je signale dans le Alpes Loisirs de ce mois-ci le très bon article de Claude Comet. Vous êtes en photo, vous êtes très bien. Voilà, alors dites-nous tout, parce que quand même, c'est un département un peu schizophrène dans lequel vous êtes, hein, les Hautes-Alpes, parce qu'au mois de février, ça vous vante les mérites d'une croisière blanche, c'est-à-dire des 4K et les quads qui confondent nature et rodéo en limite du parc national, qui ravage le Champsaur. Et puis trois semaines plus tard, on vous explique que la nature, c'est le premier capital de ce département. C'est une merveille. On vous appelle pour lever les yeux au ciel, pour regarder les aigles, parce que vous allez lancer la semaine prochaine une séance de comptage d'aigles. Racontez-nous.
Ah oui, ben c'est tous les 5 ans, on fait ça au Parc National des Écrins, et ça tombe en 2010, donc on va s'organiser avec ben plein de monde. D'ailleurs, cette opération est ouverte à tous ceux qui veulent venir avec nous. On se répartit sur le terrain et on lève les yeux au ciel, on regarde les aigles, on les compte, on essaie de ne pas les mélanger.
Alors comment on fait ça? Oui, mais racontez-nous, parce que vous avez un œil exercé. Bon, pour nous, on va dire un aigle est un aigle, mais voilà.
Ah oui, mais alors, tous ceux qui vont venir avec nous seront accompagnés par des gens qui connaissent les aigles et qui leur diront, bah, ça c'est un aigle royal, suis-le et puis le quitte plus, parce que c'est bien l'objet de l'opération, c'est une fois qu'on le voit, d'essayer de plus le quitter pour pas le compter deux fois, en somme, voilà.
Mais je vous en prie.
Oui, c'est la meilleure saison pour compter les aigles maintenant, parce que pour les voir en tout cas, c'est le moment où ils vont pondre à la fin du mois. Et puis à ce moment-là, ils se montrent beaucoup, ils sont très jaloux de leur territoire, ce sont des oiseaux qui sont farouchement attachés à leur lieu. Et le couple se montre beaucoup dans la journée. Et bien évidemment, nous on profite de ce comportement-là pour les regarder.
Alors j'allais vous demander justement où est-ce qu'il en est dans son cycle de vie, mais vous avez déjà répondu. Là au printemps, ça veut dire que la maman, elle a un œuf dans le ventre?
Et il devrait pas tarder à commencer à grandir, cet œuf dans le ventre, mais il a surtout des choses en tête, c'est d'être tranquille dans son territoire, avec le mâle qui l'accompagne, ils vivent par deux en général, et ils chassent tous les intrus qui viennent les déranger, ou même qui viennent s'introduire dans leur territoire. Alors évidemment, c'est une période très, très enthousiasmante, parce qu'on voit des spectacles magnifiques dans le ciel, et puis bientôt elle va pondre, au début du mois d'avril peut-être, les œufs de Pâques, et à ce moment-là, eh bien, les choses se recalmeront de nouveau. Elle restera pendant un mois et demi, rendez-vous compte, un mois et demi sur un gros tas de branchages perché dans une falaise.
Alors là, je sais que vous êtes dehors à peu près à 1200, 1300 mètres d'altitude. L'aigle, a priori, il vous voit très très bien en ce moment parce que vous essayez de le voir, mais lui, il vous voit remarquablement.
Ah oui, alors là, évidemment, on n'est pas à armes égales avec l'aigle royal. Nous, on est obligés d'être rusés, nombreux, mais lui, de là-haut, je ne sais pas où il est, là, tout de suite. Eh bien, sans doute qu'il nous voit, qu'il me voit, et je lui fais un clin d'œil à l'aigle royal en lui disant à la semaine prochaine, et surtout, montre-toi bien la semaine prochaine.
Hein. Et donc, il se porte bien hein, dans ce département, là, on voit la population.
Oui, dans ce département des Hautes-Alpes, je crois qu'on est. C'est un département, comme vous l'avez dit, qui est sauvage, où il y a beaucoup de nature. Et ben, l'aigle aime la nature, comme nous, comme vous. Et il y trouve là un territoire formidable pour s'épanouir. Et je pense qu'il y a une soixantaine de couples d'aigles royaux dans le département des Hautes-Alpes. Vous voyez, c'est pas mal. Hein.
Qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut un territoire grand comment
Ah, il a besoin de territoire. Il vole vite, il vole bien, donc il a besoin d'espace. Je pense que chez nous, c'est environ 100 km carrés. 100 km carrés, rendez-vous compte, c'est 10 km sur 10. Donc c'est très grand. Et les aigles, depuis toutes ces années qu'on les compte, on s'est rendu compte qu'ils n'augmentaient pas tellement en nombre. Hein. Ils se régulent entre eux. Et puis, petit à petit, ils vont reconquérir des territoires qu'ils avaient perdus. Et vous évoquiez Jean Ferrat, je crois, tout à l'heure. Et ben, ils vont aller vers le pays de Jean Ferrat, dans l'Ardèche, par exemple. Et puis, ils remontent aussi dans le Jura, dont vous avez parlé récemment avec le lynx. Mmh. Et puis, ils vont aller vers le sud du département également. Donc, ils repartent à la conquête de la France. Et j'espère que, je ne sais pas s'ils retourneront jusque dans la région parisienne, mais en tout cas, pour l'instant, leur aire géographique est en train de s'étendre.
Et ben voilà, donc c'est la semaine prochaine, c'est donc aussi ouvert au public, donc avec le Parc National des Écrins, hein, Christian Coloumi. Et donc, oui. On vous retrouvera donc sur le terrain, et puis là aussi, dans cet article de Alpes Loisirs consacré aux parcs nationaux. Merci beaucoup, Christian, puis bonne vision.
Merci, à bientôt, Denis.
Au revoir. Une autre petite information, vous avez un spectacle qui aura lieu à Paris au théâtre Comédia qui s'appelle La mémoire des possibles. Si vous avez entendu parler de ce peuple des Kogi, donc ces Indiens de Colombie qui sont les héritiers d'une des plus brillantes sociétés précolombiennes, vous avez ce mélange d'écologie et de spiritualité qui ne font qu'un pour ce peuple racine, eh bien vous avez un spectacle qui leur est consacré, présenté par Pierre Richard et Éric Julien. C'est donc à Paris et là aussi vous avez tous les éléments sur le site de CO2 Mon Amour.